BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Jean-Luc Bourlange, encore une fois, merci d'être avec nous. Vous le disiez, vous sortez visuellement, entre guillemets, de la conférence, la commission des finances qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale avec Bruno Le Maire qui est venu vous expliquer un peu justement ce plan de relance qui a été annoncé hier par Paris et Berlin. Est-ce que c'est vraiment 500 milliards d'euros? D'abord, est-ce que c'est un tournant politique? On a beaucoup dit, en tous les cas, depuis hier, les analystes, ils vous disent que c'est un tournant politique pour l'Europe parce qu'il y a un vrai engagement de l'Allemagne et un vrai engagement de la France. Et le couple franco-allemand est en train de revivre.
Oui, enfin, l'engagement de la France n'est pas une surprise parce que c'était approximativement les positions qui étaient celles d'Emmanuel Macron et même antérieurement qui étaient celles de François Hollande, qui étaient celles de la diplomatie française depuis des années, qui était qu'il fallait pour consolider la zone euro donner un prolongement budgétaire à cette union monétaire et permettre donc d'avoir une force de frappe en termes budgétaires qui soit véritablement commune et qui aille là où c'est nécessaire, là où il y a des chocs asymétriques, là où il y a des inégalités criantes, et c'est exactement ce qu'on fait. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, enfin si, je pense que c'est une bonne nouvelle
pour l'Europe,
et ce sera une bonne nouvelle si tout le monde est d'accord. Je pense que nous allons avoir effectivement des difficultés, nous y reviendrons avec un certain nombre d'États, et ça, c'est assez sérieux, mais je pense surtout que ça marque quelque chose de très fondamental, qui ne m'a pas étonné d'ailleurs, sur l'Allemagne. C'est-à-dire que moi, je crois que l'Allemagne a fait, on dit, Madame Merkel a mangé son chapeau, Madame Merkel a cédé à Macron, c'est une grande victoire française. Je ne doute pas, je suis convaincu que c'est un grand succès des idées françaises, mais je pense que Madame Merkel a évolué pour des raisons qui sont essentiellement d'ordre intérieur. Et c'est d'ailleurs rassurant, parce que ça correspond à l'intérêt allemand. D'abord, il faut voir que les Allemands ont toujours réagi quand l'euro était en péril. Même si ce n'est pas tout à fait leur idée, quand il s'est agi de permettre à la Banque centrale de faire sa politique de quantitative easing, Sarkozy a dit à Mme Merkel, écoutez, vous êtes pour l'indépendance de la Banque centrale, donc laissez-la faire ce qu'elle veut. Et Mme Merkel en est convenue. Quand il s'est agi de sortir la Grèce ou pas de la zone euro, Mme Merkel a joué avec son gouvernement dans le sens du maintien. Et là, on voit bien qu'elle a compris, elle a estimé que c'était extrêmement dangereux pour la zone euro et qu'il fallait donc quelque chose de plus. L'Allemagne a intérêt à la zone euro et donc elle est conséquente. Mais surtout, et c'est ça qu'il faut voir, c'est une réponse par le haut à l'arrêt de la cour de Karlsruhe.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, Jean-Luc Bourlange, absolument. Est-ce que c'est le contre-feu, quelque part?
C'est à la fois, c'est très habile. Ça prouve que Mme Merkel, on peut discuter de son engagement européen, qui n'a pas toujours été très, très, très vaillant. Elle a toujours tenu sur l'Europe, mais elle n'a jamais beaucoup proposé. Elle n'a jamais été très en avant dans les propositions. Mais là, on voit en plus qu'elle est extrêmement rusée, ce que nous savions. Parce que le Karlsruhe était un piège pour elle. Parce que soit elle défiait Karlsruhe et elle se mettait quand même en très grande difficulté pour un chancelier de contester la cour constitutionnelle allemande, c'était quand même très difficile. Soit elle cédait à Karlsruhe, et là, c'était véritablement l'autonomie de la Banque centrale qui était menacée, la capacité de la Banque centrale à mener une politique, qui est la condition de la survie de l'euro. Et elle s'en est sortie comment? Elle s'en est sortie en disant, Karlsruhe nous reproche une chose à la Banque centrale, c'est d'avoir inventé un fusil à tirer dans les coins, c'est-à-dire, sous couleur, de faire de la politique monétaire, de faire en fait de la politique budgétaire, puisque les taux d'intérêt très bas, ça a permis à certains États de faire du déficit. Eh bien, c'est peut-être justifié, mais pourquoi elle fait ça? Parce qu'il n'y a pas de réalité budgétaire dans l'Union européenne. Donc, laissons la Banque centrale faire son travail, mais nous, États membres, nous, membres de l'Union européenne, nous devons avoir une capacité d'intervention budgétaire. Et donc, elle a dit, voilà, il faut que l'Union européenne en tant que telle emprunte et soit capable d'être généreuse, ce qui ne peut que laisser muette la cour de Karlsruhe et et plonger dans la satisfaction les partisans comme moi de l'Union européenne.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a un peu parlé, parce que l'actualité va tellement vite en ce moment. On en a un peu parlé, mais cet arrêt qu'a la Cour de Karlsruhe, il l'ébranlait quand même quelque part. Il pouvait ébranler en tous les cas.
C'était un quasi-coup d'État. Un quasi-coup d'État juridictionnel. Oui. C'est-à-dire que si.
Et Ursula von der Leyen, du reste, a bien répondu de suite. Hein,
Si Karlsruhe était allé au bout de. Au bout de sa logique, c'est-à-dire qu'elle empêchait en fait la banque centrale de cautionner la banque européenne, on aboutissait à une remise en cause de tout l'engagement allemand dans l'Union européenne. Ouais. Donc c'était un. Alors la Cour de Karlsruhe a toujours des principes qui vont dans ce sens. Puis quand même, elle se fait peur à elle-même. Elle dit un peu comme Escartefic dans Marius, retenez-moi si je fais un malheur. Et après, Escartefic dit mais on ne retient plus. Non, c'est Panis qui dit ça, je crois. Et il fallait effectivement la retenir.
D'accord.
Et là, la chancelière a réagi d'une façon extrêmement satisfaisante en empêchant cette dérive. Je crois que c'est très très intéressant. Et effectivement, le fait de sortir par le haut laisse un petit peu sur le bord de la route les États.
Alors attends, évidemment, parce que maintenant c'est pas tout. On les a vus. Oui. Donc hier, Paris, Berlin, Angela Merkel, Emmanuel Macron, conférence de presse en commun. Mais maintenant, il faut convaincre les 25 autres. Et on a déjà, certains, l'Italie, l'Espagne, applaudissent évidemment. Les pays nordiques, un tout petit peu moins. Et puis vous avez les Hongrois, les Bulgares qui disent, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi.
Écoutez, on va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est très fort, puisque ça réconcilie. La vieille Europe franco-allemande et l'Europe du Sud. Donc on a les pays du Club Med, si je puis dire, pour parler de façon un peu désinvolte, qui sont solidaires de cette affaire. Ça fait un gros bloc. Là-dessus, comment va se comporter l'Europe de l'Est ? À mon avis, pas trop mal, parce qu'ils ont à gagner l'affaire. Ils vont contribuer assez peu, puisque ça va être.
Ben, vous avez vu les réactions. Alors, c'est pas le bloc de l'Est, mais l'Autriche déjà.
L'Europe de l'Est, ils vont contribuer assez peu, parce que, en fait, si on analysait ça techniquement, c'est comme si on avait une énorme augmentation d'une des ressources du budget européen, qui est la RNB, la ressource assise sur le produit national brut, la cotisation assise sur la richesse des pays. Là, tout à coup, on l'augmente massivement. Ces pays-là n'ont pas un PNB très important et ils peuvent gagner au retour. Simplement, ils sont effectivement en situation délicate à cause des droits de l'homme. Et reste le bloc des vrais radins qui sont c'est-à-dire l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède. Un petit peu moins, un peu la Finlande. Ça, c'est un bloc assez important. Mais là, il faut quand même. Alors, il y a quand même des pays qui sont d'abord extérieurs à la zone euro. Est-ce qu'ils sont directement concernés ? Est-ce que si on avait une crise, on ne pourrait pas faire la même chose pour la zone euro ? Parce que c'est quand même l'euro qu'on défend derrière tout ça. Donc, c'est bien de demander son avis aux Polonais, aux Hongrois, aux Autrichiens. Ils ne sont pas dans la zone euro.
Pour les Français, quoi, ça sera à peu près 25 milliards d'euros, en fait ?
Écoute, on va voir
ce qu'on va expliquer
à peu près.
À nos auditeurs,
c'est la clé de répartition. La clé de répartition qu'on fait pour la ressource PNB, qui est une des grandes ressources de l'Union européenne. Donc il n'y a pas de modification de ce point de vue-là.
Comment ça va s'articuler rapport à ce que vient d'annoncer Ursula von der Leyen ?
Quand même, il y a un problème. Est-ce que les États peuvent légitimement, alors qu'ils représenteront 30 à 40 millions d'habitants de l'Union européenne sur un total de, avec les Anglais, sans les Anglais, ça doit être 440 millions à peu près, sur 440 millions, est-ce qu'on peut bloquer le sauvetage économique de 440 millions de personnes simplement parce qu'on voudrait que ce soit payer. Ouais. Je pense que là, ça posera une crise institutionnelle. Si ces États, ce que je ne pense pas, je pense qu'on fera quelques concessions, on verra lesquelles, mais si les États persistaient dans un veto, je pense que là, nous irions vers une crise constitutionnelle, mais qui ne serait pas de mauvais aloi, parce que ce ne serait pas une crise franco-allemande.
Oui.
Et ce serait une crise l'Allemagne, la France et les pays du du Sud, solidaire. Une crise constitutionnelle, c'est simple. C'est l'extension à la majorité qualifiée d'un certain
nombre
de décisions.
Est-ce que ce n'est pas non plus une réponse... il fallait une réponse très forte, parce que c'est quand même, comme vous avez dit, c'est une réponse très forte. Et du reste, je ne sais plus si c'est Angela Merkel ou Emmanuel Macron qui a dit c'est d'abord une initiative franco-allemande. Parce que c'est important, se joue la crise économique, mais se joue aussi le Brexit. Et on voit que les discussions sont extrêmement difficiles. Oui. Il fallait... L'Europe, elle est très fragile en ce moment. Donc, est-ce que ça, vous voyez, c'est ce que ça
elle,
aussi.
Elle est fragile, c'est-à-dire qu'elle elle est fragile, fragile, elle n'est pas fragile, parce que depuis le temps qu'on dit que l'euro est fragile, l'euro est comme Voltaire, il a une mauvaise santé de fer.
Oui.
Et donc, pour l'instant, il a tenu le coup. Mais c'est vrai que. On ne peut pas continuer, on ne peut pas assumer des chocs asymétriques, car en réalité, ça fera beaucoup plus certains que d'autres, sans une solidarité budgétaire minimale. Mmh. Ça, c'est très bien calculé, parce que c'est une solidarité massive, mais temporaire et finalisée. Donc les gens comprennent qu'on fait ça pour sauver l'économie européenne et les emplois européens. Ils savent que c'est massif, qu'on ne mégote pas, et ils savent que c'est temporaire, donc que c'est pas, ça ne durera pas forcément autant que les contributions.
Comment ça s'articule par rapport aux milliards déjà annoncés par Ursula von der Leyen?
Ça, je ne sais pas, ça s'articule par rapport aux 500 milliards.
Oui,
Bah, écoutez, le président Macron a dit quelque chose qui n'a pas été du tout démenti.
Ce matin en commission,
hier,
allez-y.
Il a dit, il y a les 500 milliards qui sont l'addition des fonds consentis à la BEI, du programme Shure le MES, donc on a ces trois européen de stabilité, on a ces trois choses là qui font à peu près un peu moins de 500 milliards, et puis on aura les 500 milliards d'argent frais de dotation budgétaire, donc ça commence à faire un ensemble qui est assez conséquent en matière de matière d'aide. Et alors, les Autrichiens sont quand même mal fondés. Une chose juste.
Oui,
les
Autrichiens il y a 30 secondes et j'ai deux questions, c'est pour vous dire.
Non, les Autrichiens disent qu'il faut simplement prêter. Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aider des pays qui sont déjà surendettés en leur donnant simplement des facilités d'endettement. Il faut leur donner de l'argent net.
Jean-Louis Bourlange, vous avez 5 secondes pour répondre à deux questions, donc c'est pour vous dire.
Je suis désolé.
Alors, on va aller vite. Juste, est-ce que la République En Marche, je reviens à la question politique-politicienne, qui perd sa majorité absolue
oui,
à l'Assemblée nationale.
Ça ne mérite vraiment pas plus de 5 secondes.
Oui, et heureusement que le MoDem est là.
Est-ce que ça change rien
pour le MoDem?
Le MoDem n'a jamais été en position en désir de peser sur la survie de la majorité. C'est le virus socialiste, si vous voulez. Il y a dans le Parti socialiste, un virus fractionniste. Il est entré par les socialistes dans la REM et il se propage. Et bien nous, au MoDem, nous résistons à ce virus.
Voilà la crise du coronavirus. Le monde d'après, pour vous, il est comment?
À le monde d'après, j'ai toujours dit depuis le début qu'il s'agissait d'abord d'éviter que les choses se déglinguent et que les grands changements, on verrait, mais il faut appliquer la règle de Camus à son discours du prix Nobel. La tâche de notre génération n'est pas de créer un nouveau monde, mais d'empêcher que le monde ancien se défasse.
Et bien voilà, comme ça on finira sur cette belle phrase de Camus, vous avez raison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Louis Bourlange. Dans un instant, c'est Céline Sadar Benhaben, directrice générale d'IB pour la France. Ben allez, on fera un petit détour pour savoir qu'est-ce que vous avez fait pendant ce déconfinement. Peut-être vendu plein de choses sur eBay. On voit ça tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invitée, c'est Céline Sadar Benhaben, directrice générale d'IB pour la France. Merci d'être avec nous, enfin du moins, pas complètement avec nous, puisque vous êtes en FaceTime. Est-ce que ça veut dire qu'on est toujours en télétravail chez IB?
Alors oui, on est en télétravail. Bonjour.
Bonjour.
On est toujours en télétravail. Nous avons pris la décision de laisser les 13 000 employés de l'organisation en télétravail, où que ce soit dans le monde, pour éviter de surcharger les transports en commun ou de contribuer à la diffusion du virus. Donc malheureusement, je montre l'exemple. Pour l'instant, jusqu'au 30 juin, et les réouvertures éventuelles des bureaux se feront de manière progressive en lien avec les différents gouvernements et les différentes instances nationales.
D'accord, donc vous n'êtes pas sur la même ligne que Facebook ou que Google, qui serait donc retour de janvier 2021.
Pour l'instant, nous verrons. Nous avons par ailleurs une politique assez flexible en termes de travail à la maison, donc une grande liberté sera laissée aux employés. Mais au niveau société, effectivement, pour l'instant jusqu'au 30 juin, pas de réunion, pas d'interview directement. Donc c'est une nouvelle façon de travailler qui n'est pas toujours simple.
Oui, mais qui n'est pas toujours télévisuel, mais voilà, c'est...
Oui, clairement, c'est comme ça.
Alors, IBEF, faut-il le rappeler, c'est la troisième place de marché mondial. Et vous allez fêter vos 20 ans en France, 20 ans en France, 25 ans, sinon je crois, aux États-Unis. Comment s'est passé le confinement, ou plutôt le déconfinement? Est-ce que les Français qui ont passé beaucoup de temps chez eux, pour ceux qui étaient chez eux, en ont profité pour trier leurs affaires et puis vendre sur eBay, par exemple?
Alors, oui, très clairement, et je pense que ça, c'est une tendance qu'on va voir. Nous avons fait une étude très récemment qui nous montre que 80% des Français ont fait du tri dans leurs placards et que la moitié d'entre eux ont l'intention de vendre en ligne. De manière plus concrète, nous parlons de 2 milliards d'objets qui ont été triés et qui sont aujourd'hui dans les placards des Français. Donc, très clairement, c'est l'un des axes sur lequel nous travaillons et nous les invitons à venir mettre en vente. D'autant que leurs produits peuvent être vendus en France ou à l'étranger. Donc ça, c'est une caractéristique. L'autre partie pour nous qui est très importante, qui l'a été pendant le confinement et qui se continue, c'est l'accompagnement au-delà des vendeurs particuliers, l'accompagnement que nous pouvons donner aux vendeurs professionnels, aux 24 000 vendeurs que nous avons aujourd'hui, et nous espérons que cela va croître. eBay permet effectivement d'offrir un canal de distribution en ligne en complément des magasins, et particulièrement en complément des magasins de proximité.
Oui,
donc c'est vraiment les deux sujets.
Pardon, juste pour un... Vous étiez à combien avant le confinement? Aujourd'hui, vous êtes à combien?
Alors, nous avions avant le confinement 24 000 vendeurs professionnels. Donc là, je parle des vendeurs professionnels
sur
le marché français.
Les autres, les Français, les citoyens.
Les Français.
Oui.
Ah, les citoyens, oui. On parle de plusieurs centaines de milliers de Français en vendeurs particuliers.
Oui.
Et l'idée, là, aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir accompagner, en fait, le passage en ligne à la fois des vendeurs professionnels, avec toute une série de mesures d'accompagnement et la capacité à montrer leur inventaire sur eBay en plus de leur magasin physique, et de pouvoir, évidemment, accompagner nos vendeurs particuliers avec toute une série de services pour se débarrasser et gagner un petit peu d'argent avec la vente de leurs produits, des produits qu'ils ont pu trouver dans les placards.
Et qu'est-ce qui marche? C'est quoi les grandes tendances? Qu'est-ce que vous voyez?
Tout marche.
Donc les masques, très important. Il y a plein en masse de gens qui font des masques.
Ouais. Alors les masques, on a une politique. Donc si je fais un petit peu d'historique, depuis le début du confinement, donc on a vu au début des confinements, donc on a interdit sur eBay toutes les ventes de produits, enfin de masques chirurgicaux et de gel hydroalcoolique. Donc on a été très attentif à éviter les abus sur ce sujet-là. Ce qui s'est vendu, donc dans les premières phases de confinement, on a vu des produits de type jeux vidéo, on a vu des produits d'équipement, donc énorme succès de la tondeuse pour cheveux, par exemple, qui a été un de nos best-sellers pendant quelques temps, ou des machines à coudre. Donc on voit vraiment un retour à certaines activités et loisirs créatifs. Ça a été suivi par une période dans laquelle on a vu énormément de produits pour la maison, pour le jardin, donc des broussailleuses, les ventes multipliées par 3, tailleuses aussi.
Oui, donc on voit.
Et visiblement, les Français ont fait de la peinture, puisqu'on a vu une explosion complète de la peinture. Et depuis la fin du déconfinement, donc là, on retrouve des typologies de ventes relativement similaires à ce qu'on observe d'habitude. Donc tout produit. Clairement, les voitures ont redémarré, les gens achètent des pièces détachées. Et chez les vendeurs particuliers, absolument tout. On trouve absolument tout ce que vous voulez sur le site. Et tout simplement.
Qu'est-ce qui est pour vous, pour des sites... D'abord, est-ce que vous n'allez pas faire comme Uber, autre grande plateforme américaine? Vous n'allez pas virer 3500 personnes par vidéoconférence?
C'est pas du tout d'actualité en ce qui nous concerne.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui travaillez dans une grande entreprise, une plateforme américaine? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est difficile de commenter, j'ai pas tout le contexte. Le processus particulièrement difficile et particulièrement violent pour les personnes qui étaient de l'autre côté de cette partie-là. En ce qui nous concerne, l'activité, nous avons rattrapé, on a une petite baisse d'activité au début du confinement qui a été largement rattrapée. Donc la politique d'IB, ou en tout cas notre position, n'est absolument pas une logique de réduction de coûts ou de réduction d'effectifs. Nos projets continuent, donc on n'est pas du tout à l'ordre du jour.
Oui. Donc, en fait, pour vous, la crise, cette crise, évidemment, je ne parle pas de l'aspect sanitaire, hein, et en plus, comme vous le disiez, vos 13 000 salariés sont tous en télétravail. Mais est-ce que ça a été plutôt bénéfique, non ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là pour eBay ?
Alors, j'irai pas. Donc, notre activité, effectivement, en progression, hein, si on regarde depuis le début du confinement. Pour moi, la principale leçon de cette crise, ça a été le renforcement de la capacité d'eBay à accompagner les acteurs économiques. Et s'il y a une chose que je retiendrai de ce confinement, c'est en particulier notre capacité à accompagner des commerces. Pour moi, la différence, on a toujours opposé, ou on a souvent opposé, le commerce de proximité et le commerce en ligne. Je crois que c'est fini et qu'une plateforme comme eBay peut permettre justement à un commerce, à Clermont-Ferrand, à Vierzon, à Tarbes, de vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de vendre à l'export, puisque plus de 95% de nos vendeurs vendent à l'export dans 15 pays en moyenne, et de pouvoir, puisqu'on a un programme qui s'appelle Toujours ouvert sur eBay, leur permet d'apposer un kit gratuit de vitrophanie dans leur vitrine, qui permet à des acheteurs qui passent, avec un petit QR code, d'avoir accès à leur boutique eBay immédiatement. Donc pour moi, on est dans une logique d'accompagnement, avec une prise de risque minime, nulle, qui est juste un petit peu de temps, puisque évidemment notre business model nouveau, est basé sur une commission.
C'est un peu à nouveau, bien sûr, c'est une commission. C'est un peu un nouveau business model là pour le coup, non ?
Alors c'est pas nouveau, hein. Ça a montré sa pertinence. Voilà. On a renforcé les mesures, on a mis en place un certain nombre d'opérations promotionnelles, il y a un accompagnement personnalisé parce que c'est pas toujours facile de passer en ligne.
Oui, bien sûr.
Voilà. Rien n'est nouveau, c'est une accélération qui me paraît importante et qui me paraît d'autant plus importante qu'en France, la digitalisation des TPE-PME est en retard par rapport à d'autres pays européens. Oui. Donc il y a un vrai vivier de croissance.
Il y a un vivier de croissance. Comment est-ce que d'abord, dites-moi juste, qu'est-ce qu'il y a eu, quel est l'objet le plus insolite qui a été vendu pendant cette période de confinement, ces 8 semaines de confinement ?
Alors, je crois que pour moi, l'objet le plus insolite en ce moment, on a inventé un Miro. Donc, pendant ce confinement, on a lancé un service qui s'appelle Estimez vos trésors, qui permet aux vendeurs particuliers, donc des gens comme vous et moi, de faire estimer par France Estimation un de leurs produits et de vérifier la valeur de ce produit. Et au cours de la mise en place de ce service, on a trouvé énormément de produits avec une forte valeur, dont un Miro qui est estimé à plus de 100 000 euros et qui est aujourd'hui en vente sur le site. Donc ça restera pour moi l'objet du confinement et les pépites ou les surprises qu'on a pu identifier.
C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sous, hein, en l'occurrence, pour vendre son Miro.
Ou c'est quelqu'un qui avait
vraiment... Ça vaut assez cher.
Ou quelqu'un qui avait un trésor caché dans son grenier.
Très rapidement, le monde d'après pour vous, patronne d'eBay France, c'est quoi ?
Alors, je pense que le monde d'après, ça reste un changement d'habitude, j'espère, progressif sur un certain nombre de sujets. Donc, digitalisation pour des TPE-PME et pour nos vendeurs particuliers, peut-être une prise d'habitude de vendre ces produits plutôt que de les jeter et de contribuer ainsi à une économie plus circulaire.
Merci beaucoup, Céline Sada Benaben, qui a été donc en direct avec nous, la patronne d'eBay pour la France. eBay qui fête donc ses 20 ans. On vous reviendra nous voir en fin d'année. Et puis dans un instant, c'est Philippe Martinez. Il est secrétaire général de la CGT. Il est là, on l'accuse parfois de vouloir bloquer la reprise de l'économie. Ses réponses, évidemment, c'est dans un instant. Mais pour l'instant, place à l'actualité avec Claire Caligalchi.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Philippe Martinez, merci d'être là, merci d'être en studio. Et puis, je crois que vous avez été, vous me disiez, le seul à la CGT à travailler, en tous les cas, bien sûr.
Travailler.
À ne pas être en télétravail, puisque exactement, vous étiez donc à votre bureau. Philippe Martinez, il y avait évidemment plus sérieusement beaucoup de questions à voir, parce que crise sanitaire, crise économique, crise sociale. On y va. Peut-être d'abord un mot sur ce plan de relance franco-allemand qui a été annoncé hier. Laurent Berger, votre homonyme de la CFDT, a dit que la CFDT soutenait cette démarche qui redonne des perspectives. C'est un vrai signal politique. Est-ce que vous partagez l'enthousiasme, en tous les cas, sur l'annonce? Après, on va voir les modalités, bien sûr, de Laurent Berger.
En tout cas, c'est difficile parce que c'est une annonce. Et tout de suite derrière, on sait que des pays, c'est ça la solidarité des pays européens, vont dire non, il faut de la solidarité entre pays. Donc, c'est un effet d'annonce, malheureusement. Quelles mesures on prend concrètement pour qu'un plan de relance, une aide concrète aux pays les plus en difficulté soit mise en œuvre? Là, on voit bien que tout de suite derrière l'annonce, tout le monde, enfin une majorité de pays vont dire non, pas nous, il faut que ça soit les
pas une majorité, on a vu l'Autriche qui reste quand même un petit pays à l'aune, à l'aune de l'Europe.
Il peut y avoir des pays nordiques, il peut y avoir des pays de l'Est, etc. etc.
Est-ce que ça veut dire que de toute manière, est-ce que vous, pour la CGT, il est important qu'il y ait un plan de relance au niveau européen, quelles qu'en soient les modalités? Est-ce que vous dites que l'Europe doit absolument être présente dans cette crise pour nous sauver de cette situation?
Oui, il faut que l'Europe joue son rôle. Oui. Pas quel qu'en soit le prix.
Quoi qu'il en coûte.
Quoi qu'il en coûte, oui, mais pas à n'importe quel prix, notamment pour les salariés, pour les populations. On peut pas, justement, c'est pour ça qu'il faut de la solidarité, il faut revoir la question de la dette et certainement l'annuler pour une partie des pays, parce qu'on voit bien que c'est à cause de cette dette que la situation de certains pays s'est dégradée. Et si on en remet en plus, ça va être encore des restructurations, des licenciements et de la misère. Donc il faut de la solidarité européenne, mais pas à n'importe quel prix.
Philippe Martinez, je vous ai demandé d'être là parce que c'est vrai qu'ici, vous, comme vous savez, vous venez souvent nous voir, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de cadres, etc. Et on dit, la CGT, en fait, on vous accuse un peu de vouloir éviter la reprise de l'économie, l'activité. Qu'est-ce que vous pouvez dire, répondre? Quelle est l'attitude de la CGT et de vous, Philippe Martinez, pour sortir de cette situation dans laquelle nous nous trouvons?
Alors, premièrement, je dois dire que c'est quelques éditorialistes qui nous accusent de ça, et puis des ministres aussi qui se prêtent à ce rôle. Nous, ce qu'on dit, c'est l'économie et la santé, ça doit aller de pair. Et on voit bien, l'actualité l'a montré, que quand on fait privilégier l'un par rapport à l'autre, il y a des risques. Je ne cite pas les abattoirs que vous avez rapportés dans vos informations. On voit bien qu'il faut ménager. Et l'économie, évidemment, on souhaite la reprise, les gens veulent travailler, vous savez qu'il y a des gens qui perdent de l'argent quand ils sont au chômage partiel, donc ils souhaitent, et puis c'est difficile ces conditions de confinement, on a besoin, la vie sociale c'est important, mais pas à n'importe quel prix là non plus, et quand on ne conjugue pas économie, reprise de l'économie et santé, eh bien il y a des choses qui arrivent telles qu'on l'a vu dans ces abattoirs.
Oui, mais en l'occurrence, si on prend le cas de Sandouville-Renault, alors Renault que vous connaissez, on va quand même rappeler à ceux qui l'auraient oublié, mais enfin vous avez quand même passé combien de temps
J'y suis encore.
Vous y êtes encore, du reste. Donc, vous êtes passé 22 ans chez Renault, donc vous connaissez bien l'entreprise. L'histoire de Sandouville, ce n'est pas une question de mesures sanitaires, c'est les convocations par mail n'ont pas été faites comme il le fallait.
Non, ça c'est...
Je ne sais pas, enfin, en tous les cas,
C'est ce qu'on dit, et donc, puisqu'on dit ça, tout le monde le répète.
Enfin, oui. Un certain nombre le répète. D'accord, ok, donc allons-y.
Sandouville, c'est exactement la même situation qu'Amazon, ou des entreprises, des abattoirs qu'on vient de citer. Quand on fait un plan sanitaire, c'est pas la direction qui décide toute seule comment ça doit se passer. C'est un échange, et au bout de cet échange, eh bien, on valide un plan sanitaire. Vous voyez, parce que on fait la différence entre Amazon et Renault, c'est le même problème. Vous voyez, Amazon, personne n'a accusé les syndicats d'avoir fermé les entrepôts. Exact. Pourquoi ? Alors que c'est la même situation. Ouais. Premièrement, c'est un juge qui décide. Un juge.
Mais d'accord,
vous voyez, j'entends des ministres souvent dire on ne commente pas les décisions de justice. Là, celle-là, elle a été commentée. Donc, on discute. Et quand on est d'accord pour que toutes les mesures soient prises dans une discussion, en respectant les instances représentatives du personnel, eh bien, il n'y a pas de problème. Amazon, ce week-end, il y a eu un accord de signer, la CGT l'a signé, d'ailleurs.
Ok, chez Renault, donc, vous nous dites, Sandouville, c'est pas la question de mail, etc., c'était pas ça du tout la question, c'est exactement...
C'est le respect des d'accord. règles du dialogue social et l'écoute des représentants des salariés d'accord. à Sandouville.
Il y avait un risque sanitaire chez Renault, à l'usine de Sandouville.
Toutes les problématiques exposées par les syndicats et par la CGT n'étaient pas respecter. Un plan sanitaire, c'est pas un digne direction qui arrive et qui dit voilà ce que je vais faire. C'est elle dit voilà ce que je propose de faire. Vous voyez la nuance, c'est ça le dialogue. Et quelles sont vos remarques? Ça n'a pas été fait.
Pour faire un petit peu d'humour, peut-être que vous n'allez pas apprécier. Il y avait, je crois,
un dessin.
C'est pour ça que je le fais. Un dessin qui disait il faut vite déconfiner pour qu'on puisse tout rebloquer. Philippe Martinez, est-ce que ce qui s'est passé quand même là, est-ce que ça a changé un tout petit peu l'attitude de la CGT, si vous me permettez?
Non, j'adore les caricatures, donc ça me fait beaucoup rire, ce genre de dessin. Mmh. Mais une caricature, c'est une caricature. Ce n'est pas la réalité. Oui. Moi, je me félicite que la CGT et d'autres syndicats, mais que la CGT était présente durant ces 8 semaines dans des conditions difficiles pour aider les salariés, que beaucoup de salariés nous ont appelés. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on applique ça? Est-ce que vous croyez que je peux reprendre mon boulot parce que j'ai pas les masques, parce que y a pas de gel, parce que dans une usine, vous le savez très bien, respecter les distances avec le bruit, c'est très compliqué. C'est le cas dans les abattoirs. Mmh. Le problème des vestiaires. Un vestiaire, c'est différent que dans un bureau où on peut respecter. Eh bien, la CGT, elle s'est battue, elle a conseiller les salariés, et quand il n'y a pas eu de problème, personne n'a dit à la CGT elle s'oppose à quoi que ce soit. Mais quand il y a des problèmes, il y a un genre de petite musique qui devient d'ailleurs une mauvaise petite musique. On sera responsable de tous les maux. C'est pas nouveau, hein. Un hebdomadaire l'avait fait durant le mouvement social des retraites. Donc c'est pas nouveau ce genre de... Quand c'est un caricaturiste qui le fait, ça me fait beaucoup rire. Quand c'est des prétendus éditorialistes, ça me fait moins rire.
Est-ce que on voit qu'il y a des dossiers qui commencent à être révélés? Il y a Conforama, Nafnaf, Alinéa, mais il y en a d'autres, bien sûr. Il y a beaucoup d'entreprises qui jouent leur survie. D'abord, vous, est-ce que la CGT, vous avez des remontées sur ces dossiers-là?
Bien sûr. Et...
Conforama, il y a aussi un problème...
Il y en a beaucoup.
De banquier.
J'ai eu le ministre de l'économie, je vais lui envoyer un courrier, je pense qu'il est parti tout à l'heure.
Pour lui dire quoi?
Avec une liste d'entreprises où on dit, avant d'engager des licenciements, regardez ensemble, discutons pour voir s'il n'y a pas d'alternative. Et puis je lui ai dit, et je lui ai écrit, qu'il y a certaines entreprises qui avaient des plans de restructuration dans les tiroirs, et qui, sous prétexte de Covid, leur sortent. Vous savez, on parle beaucoup de l'aéronautique, mais toute une série de sous-traitants de l'aéronautique, avant la crise, était déjà en train de réfléchir parce qu'il y avait les problèmes techniques chez Boeing. Or, vous savez, des entreprises comme Safran travaillent pour Airbus et Boeing.
Ouais.
Donc, on ne peut pas mettre sur le dos, entre guillemets, de la crise sanitaire des choses qui étaient déjà. Donc, parlons, discutons et trouvons des solutions ensemble avant de dire restructure.
Et cette liste, il y a quoi comme entreprise? Vous pouvez nous dire les noms?
Il y a le commerce, vous en avez cité.
Oui.
Il y a Conforama, Linéa, La Halle, par exemple. Il y a Engie, par exemple, qui annonce près de 10 000 suppressions.
Oui, alors hier, je recevais son président du conseil d'administration qui dit c'est pas des cessions, c'est pas justement des suppressions de postes, c'est des ventes.
Oui.
Parce que justement, j'ai dit la CGT, vous, Philippe Martinez, redoutez entre 10 et 15 000 suppressions de postes. Il dit, attention, ce n'est pas les suppressions de postes, c'est qu'on va vendre des sociétés, des lagages, mais peut-être d'autres aussi, qui sont plus importantes comme Edel.
On n'a aucune expérience de vente où il n'y a pas eu de suppression d'emplois. Il y en a quand même quelques-unes. Donc, Engie est un vrai problème. Et d'ailleurs, on parle de reprise de l'économie, on parle de réindustrialisation, etc. Profitons-en pour revoir ce que ça veut dire relocaliser, réindustrialiser. Engie est un bon exemple. Il y a l'automobile, il y a l'aéronautique, il y a la sidérurgie.
Oui, il y a un accord là, qui a été signé, là, la métallurgie. Pourquoi vous ne l'avez pas signé, cet accord pour la métallurgie?
Parce que c'est un accord qui prévoit de dégrader les conditions de travail. Vous voyez ?
La CFDT, la CFSGC de mémoire l'ont signé.
Quand vous aurez un autre invité, vous lui poserez la question.
Mais c'est pour ça de dire qu'il y en a d'autres.
Là, vous m'interrogez pourquoi on ne l'a pas signé. Parce que ça va dégrader les conditions de travail. C'est des prises de congés, enfin, c'est du vol, entre guillemets, de congés pour les salariés. Enfin, les salariés qui étaient chez eux, ils n'étaient pas en vacances. Il y en a même qui travaillaient en étant chez eux. Donc, je vous le dis, il y a besoin d'une reprise économique et la CGT, personne ne peut nous le contester, défend l'industrie comme personne, je crois.
Mmh.
Par contre, cette reprise, elle ne peut pas se faire au détriment de la santé des salariés.
Est-ce que vous vous pensez que il y a beaucoup d'entreprises. Ah, attention, voilà, on vous apporte une poutée d'eau en passant dans la caméra, mais voilà, c'est les joies du direct.
Merci.
Est-ce que vous pensez que il y a beaucoup d'entreprises qui vont mettre ce que vous venez de dire, beaucoup de choses sur le dos du Covid. Il y a aussi Air France KLM. Est-ce que finalement, on ne sait pas ce qui va se passer?
Justement, comme on ne sait pas ce qui va se passer, discutons avant, trouvons des solutions, des alternatives, y compris de la diversité dans l'activité, de la formation pour les salariés, plutôt que de choisir la solution, et là je mets des guillemets, la plus simple. Comme on voit trop souvent, c'est on vire d'abord, on discute après. Et puis, il y a des nouvelles filières à créer. Vous voyez, moi, ça m'irrite fortement quand on dit la CGT veut casser l'industrie, etc. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour la création d'une filière d'imagerie médicale en France. 10 ans, tout seul. Vous pensez pas qu'on avait un peu d'avance sur notre temps? Eh bien, moi, je me félicite qu'une entreprise qui est dans l'Isère, Trixel, on s'est battu, la CGT s'est battue pour pas la fermer. Eh bien, ils ont travaillé parce qu'ils font des détecteurs pour l'imagerie médicale. Et là, le meilleur remerciement qu'ils ont eu, c'est le personnel soignant de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu qui leur ont envoyé une photo. Vous voyez, c'était l'inverse. Merci les ouvriers de Trixel d'avoir continué à travailler.
Mais, oui, mais en même temps, défendre l'industrie, bien sûr, en plus, vous connaissez très bien cette industrie. Regarde, parlons de Renault encore une fois, je ne parle pas plus de Sandouville, bien sûr, mais vous avez vu les immatriculations en Europe, moins 74%, et pour la France, pour Renault, c'est moins 79%. Vous vous dites, il faudra bien faire quelque chose, non? Vous êtes d'accord? Donc là, on va voir ce que va nous annoncer le 29 mai Jean-Dominique Senard, le nouveau président de Renault. Il y aura forcément une remise en cause du modèle Carlos Ghosn. Il y aura forcément une nouvelle peut-être, je sais pas, une usine créée autour de la voiture électrique et des relocalisations peut-être.
Mais premièrement, je fais une petite parenthèse. Le marché automobile s'est cassé la figure, ça c'est clair. Sauf un constructeur, Porsche, qui a fait plus 25%.
Oui.
Plus 25%. Mais c'est bien de le dire aussi.
Mmh. Bah, c'est des petites quantités quand même.
D'accord. Enfin, mais tout le monde.
Il suffit qu'on en vende plus, ça fait.
La crise ne se vit pas de la même façon pour tout le monde parce que c'est pas les voitures les moins chères.
C'est clair.
D'accord.
Oui.
Je ferme cette petite parenthèse. Mmh. Renault, le problème de Renault, c'est pas lié au Covid. Vous venez de le dire. Est-ce qu'on va revoir la stratégie de Carlos Ghosn? Là aussi, comme c'est une entreprise que je connais bien, ça fait un petit moment que j'en parle au ministre de l'économie, et je pense que le nouveau PDG de Renault devrait écouter la CGT, qui a fait un plan de redistribution des productions, parce que cette volonté de faire de la croissance externe à tout prix, en dépensant beaucoup d'argent sur des marchés qu'on dit low cost, mais c'est surtout les salariés qui sont low cost.
Mais vous pensez à quoi là? Vous faites allusion à la Nissan, Mitsubishi, ou vous dites...
Vous savez le nombre de marques qu'a racheté Carlos Ghosn, le nombre d'entreprises qu'il a créé dans des pays à bas coût où les salariés ont des mauvaises conditions de travail, ont pas de protection sociale, parfois pas de protection du tout. On peut les compter, ça coûte de l'argent. Et bien cet argent là, c'est pas dire il ne faut pas faire travailler les salariés dans d'autres pays, mais il faut que les conditions de travail soient les mêmes, les plus justes possibles.
Vous croyez la relocalisation possible? Parce que, en tous les cas, c'est un peu le discours de Bruno Le Maire en disant « Attendez, là vous recevez un prêt, très bien, ça c'est pour... mais il faut relocaliser. Est-ce que c'est possible? À ce moment-là, il y a des conséquences sur le pouvoir d'achat des Français.
Pourquoi?
Parce que ça en produit un peu plus cher.
Il y a
des impôts un peu plus chers, donc on est un peu plus cher.
Vous connaissez
la logique comme moi, Philippe Martinez.
Il faut les augmenter un peu. Vous voyez, cette crise a révélé...
Donc en ce moment-là, on vendra les voitures un peu plus chères.
Il faut, ça dépend des marges, ça dépend des marges des entreprises, ça dépend, c'est important, des investissements, etc., etc. Donc, mais vous avez raison, ça fait aussi un moment que j'en parle avec Bruno Le Maire, parce que Renault, j'aime toute l'industrie, mais quand on a travaillé aussi longtemps dans une entreprise, ça intéresse. Et donc oui, il faut relocaliser un certain nombre de productions. Renault produit moins de 25% de ses véhicules en France. Moins de 25%. Il faut revoir. Et on produit plus du tout de petits véhicules en France. Enfin, chez Renault, pardon. Ben, il faut revoir. Et puis, peut-être qu'il faut, vous parliez de l'Europe en démarrant l'émission, il faut aussi que, peut-être qu'en Europe, enfin pas peut-être, en Europe et dans le monde, on revoit ce monde qui consiste à toujours mettre de côté les conditions sociales des salariés et les questions environnementales. Parce que réimporter des produits, pour l'environnement, c'est pas bon. C'est pas bon.
Est-ce que vous pensez qu'on va, vous voyez vraiment une vague de restructuration très très importante ?
Si le gouvernement ne prend pas plus appui sur les propositions des syndicats et laisse faire, par exemple, des aides ou des prêts sans conditions sociales et environnementales, oui, il y a un risque.
Normalement, enfin pas normalement, mais en tout cas, Bruno Le Maire l'a dit, mais ici même, du reste. Et ça suscite des interrogations en disant, là, c'est le moment, il ne faut pas louper le coche de la croissance verte. Donc, d'accord, on vous donne de l'argent, des prêts, mais en échange, il faut des engagements environnementaux.
C'est pas la croissance verte, c'est produire autrement. C'est produire autrement, travailler autrement. C'est pas de la croissance verte, parce que si on fait les mêmes excès sur de l'industrie verte, on n'aura rien réglé. C'est produire différemment, investir dans des nouvelles productions, travailler autrement. C'est ça qu'il faut. Et ça doit se réfléchir en France, en Europe et sur la planète. Nous nous battons pour qu'il y ait des critères sociaux et environnementaux, par exemple, pour les appels d'offres des marchés publics. Vous savez, si on avait à choisir entre un train chinois et un train européen pour équiper la SNCF, avec des critères comme ça, il n'y aurait pas photo, vous voyez ? Donc il faut revoir le monde de demain, on ne peut pas continuer comme
ça. Mais donc pas que la croissance verte, ce n'est pas suffisant, c'est ce que vous dites, Philippe Martinez, c'est-à-dire...
La croissance verte, c'est quelque chose que nous récusons, travailler autrement, parce que si on
vous
produit...
Vous récusez
La croissance verte, ça ne veut rien dire. Si c'est pour produire plus avec des labels écolo, avec la dégradation des conditions de travail, avec aussi des questions environnementales induites, ça ne sert à rien. Produire autrement, produire différemment et en respectant les salariés et la planète.
Est-ce qu'il faut le chômage partiel, là, quelques mesures, parce qu'on voit bien, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement, on va y revenir. Chômage partiel, jusqu'à quand ? Vous pensez qu'il faut aller 1er juin ou au contraire, il faut aller jusqu'à l'été, comme le disait Geoffroy de Bézieux, qui était aussi mon invité ?
Il faut jusqu'à, pour tous les salariés dont pour qui c'est nécessaire. Si on veut préserver la santé, il faut une reprise progressive de l'activité. Ceux qui ne peuvent pas reprendre, il faut qu'ils soient en chômage partiel. On se bat depuis le début aussi sur ces questions-là pour que mettre plus à contribution les assurances. Parce que on a proposé au gouvernement qu'il décrète un état de catastrophe sanitaire. Il y a des petits commerçants, des petits artisans qui, évidemment, sur leur contrat d'assurance, n'avaient pas prévu le Covid-19.
Une pandémie, oui.
Et bien, comment on fait pour les aider, eux et leurs salariés? Parce que souvent, ils ont un ou deux salariés pour qui l'avenir peut s'assombrir, comme pour le patron. Eh bien, si on décrète un état de catastrophe sanitaire comme on le fait pour les catastrophes naturelles, vous savez, eh bien, les assurances qui sont...
Et vous a répondu quoi ? On vous a répondu quoi ?
On va leur en parler, on va les inciter à le faire. Mais vous voyez bien qu'il y a... on voit bien qu'il y a des intérêts communs, il y a des commerçants, des restaurateurs qui emmènent les assurances au tribunal, j'espère que vous le direz aussi, parce que, justement, les assurances ne couvrent pas ce genre de risque. Mais comment
on sait que c'est un très gros dossier. Je ne sais pas si hier vous avez regardé ce remarquable, enfin en tout cas très intéressant, documentaire de nos confrères de BFM TV sur l'Elysée avec Emmanuel Macron dans cette période de confinement. Il y avait juste un moment, on le voit en vidéoconférence avec Philippe Etchebest, le chef Philippe Etchebest. Et puis il y a l'autre qui lui reproche telle chose. Et il dit, mais quand même, est-ce que vous avez... Pas drôle, personne ne nous reproche d'avoir quelque part nationalisé l'emploi en France, puisqu'il y a quasiment la totalité des salariés qui sont actuellement payés par l'État. Est-ce que vous dites, là, quand même, l'État, il a fait le job. L'État-providence, il a été là, ou pas. Non, mais au moins sur ce point-là. Mais, après, il y a d'autres points...
Mais le chômage partiel, ça existait avant le Covid. La seule différence, c'est l'ampleur des gens.
Bien sûr.
Encore qu'il faudra vérifier, parce qu'entre les demandes des entreprises et la réalité des demandes de remboursement, je ne suis pas sûr qu'on soit 12 millions. Mais la ministre du Travail et le gouvernement communiqueront. Mais il y a 4 mois, je suis sûr que vous avez reçu plein d'invités qui disaient le modèle social français, il faut changer, vive le modèle anglo-saxon. Eh bien, on voit que ça sert quand même. Vous savez, en quelques semaines aux États-Unis, qu'on vante souvent, il y a eu quand même des millions de chômeurs. Eh bien, nous, on a une sécurité sociale, une santé, même si elle est très attaquée, qui permet encore d'avoir ce matelas et d'éviter que trop de gens soient au chômage. Eh bien, non seulement il faut le préserver, mais il faut revenir en arrière. Je pense à l'assurance chômage. Vous savez, vous avez présenté...
Elle est déjà largement revue en arrière.
Non, elle est suspendue pour l'instant.
Oui, c'est suspendu.
Mais pour quelque chose qui était hyper moderne, qu'elle est protéger les chômeurs, la première mesure, c'est de le suspendre. De la part du gouvernement, c'est que ce n'était pas si bien que ça.
Une question, Philippe Martinez, sur l'hôpital quand même, parce que évidemment, il y a ce Ségur de l'hôpital, avec Olivier Véran qui a dit que la question de la rémunération était, j'ai envie de dire, enfin, sur la table. Et vous serez autour de la table, justement, autour de la table, Philippe Martinez ?
Comme d'habitude, oui. Comme d'habitude. Par contre, il faut autre chose qu'une médaille.
Des rémunérations.
Et puis
c'est la fin des 35 heures avec un assouplissement.
Donc c'est pas ça. Le mouvement social dans les hôpitaux, il date depuis un petit moment. Et les EHPAD,
d'ailleurs. Des 35 heures, non,
Ça fait un an et demi que les hôpitaux, les personnels soignants sont mobilisés. On leur a rayonné.
Ça fait beaucoup plus qu'ils sont mobilisés.
On leur a rayonné. Plus peut-être. Aujourd'hui, on se rend compte que le travail qu'ils font. Vous savez combien il y a d'heures supplémentaires pour le personnel soignant ? Je crois qu'on dépasse les 2 millions. Donc ils travaillent déjà plus de 35 heures. Donc remettons pas en cause les 35 heures. Par contre, faisons en sorte qu'il y ait des emplois suffisants pour qu'ils puissent faire leur travail correctement, qu'ils n'aient pas des tâches diverses, et puis qu'on reconnaisse leurs qualifications. Ça a eu le mérite d'exposer au monde entier, j'allais dire, que les soignants en France sont parmi les plus mal payés d'Europe.
Oui, bien sûr.
Était temps qu'on s'en rende compte.
Oui, mais peut-être qu'il faudrait, les faire aller tout de suite à 35 heures, à 37 heures avec la rémunération qui va en face.
Mais
pour clarifier la situation, plutôt que d'empiler des heures supplémentaires verse pas.
Pour éviter de faire des heures supplémentaires, il faut faire, comme ils le revendiquent depuis des mois et donc des années, comme vous dites, des embauches supplémentaires.
Oui, donc vous serez autour de la table.
D'habitude. Comme d'habitude.
Et sur le télétravail, vous serez autour de la table, Philippe Martinez?
Nous, on a demandé depuis un petit moment qu'il y ait un accord national sur le télétravail.
Oui.
Si vous avez reçu le président du MEDEF, il est moins...
Mais il a dit qu'il voulait vous recevoir, là, bientôt.
J'ai pas compris qu'ils étaient pour un accord national.
Oui.
Ils veulent réfléchir sur le télétravail. C'est pas la même chose. Un accord national, ça permet d'encadrer un certain nombre de choses, parce que la plupart des gens qui travaillaient à la maison durant ce confinement, ils n'étaient pas en télétravail. Le télétravail, c'est pas travailler, puis s'occuper des devoirs des enfants, puis préparer à manger. Ouais. C'est pas se partager un ordinateur à 4 ou à 5.
Mais vous espérez un accord.
Il faut un accord.
Il faut un accord. Merci beaucoup, Philippe Martinez, d'avoir été avec nous, secrétaire général de la CGT. Voilà, comme ça, vous avez expliqué que la notion sociale est aussi importante que la notion environnementale. Merci beaucoup. Voilà,
merci,
c'est la fin de l'orage. On se retrouve, bien sûr, demain à 8h15 et puis dans l'orage, 12h13. Bonne journée.